7h50 à Paris, notre invité ce matin, Hubert Védrine. Vous avez travaillé durant 14 ans auprès de François Mitterrand, puis ministre des Affaires étrangères, de 1997 à 2002, durant la cohabitation entre Jacques Chirac et Lionel Jospin. Bonjour Hubert Védrine.
Bonjour.
Les obsèques de Jacques Chirac ont été célébrées hier, journée de deuil national, honneur funèbre militaire dans la cour des Invalides, messe en l'église Saint-Sulpice, c'était l'hommage national après l'hommage populaire. On a vu ces milliers de Français se presser pour signer des registres de condoléances à l'Élysée, aux Invalides et dans de nombreuses mairies de France depuis jeudi. Est-ce qu'on en a trop fait ?
Qui c'est on ? Les gens ?
Les gens, les autorités, les médias ?
Non mais les gens, ils sont comme ils sont et on peut pas juger d'en faire trop ou pas assez. Non, ce qui est frappant dans cet épisode, c'est que là, on parle pas du tout de bilan en fait.
Complètement, mais, on est dans l'émotion.
L'émotion, parce que Jacques Chirac était une sorte de champion extraordinaire de l'empathie. L'empathie par rapport aux gens, c'est ce qu'on entend. Alors, est-ce qu'un président de la République est choisi pour être une sorte de haut de la pyramide de la sympathie ? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de traiter le sujet ? En fait, tout ça est complètement mélangé, en fait. Et donc, c'est l'émotion, il était sympa. C'est vrai, il était extrêmement sympathique.
Vous l'avez bien connu, hein ? Vous avez travaillé quotidiennement avec lui en tant que ministre.
Moi, je l'ai pas connu politiquement, parce que je suis un homme de Mitterrand.
Bien sûr.
Je l'ai un peu vu de loin pendant la première cohabitation conflictuelle entre Chirac et Mitterrand. Et puis, je l'ai connu après, au moment de la transition, quand j'étais secrétaire général de l'Élysée, et où Jacques Chirac était au petit soin pour Mitterrand, sans arrêt. Puis je l'ai connu à nouveau. Alors là, pendant 5 ans, c'est quasiment vu tous les jours pendant 5 ans. Donc je le connais assez bien, mais pas comme les gens qui ont été ses compagnons politiques ou amicaux. Ou
c'est
naturellement,
évidemment pas le même type de relation. Hein.
Mais ce qui est vrai, c'est que en ce qui concerne l'empathie, au-delà des gens, des petites gens, en fait, tout ce qu'on a vu se manifester, qui est assez émouvant, c'est qu'il avait une extraordinaire empathie, je reprends le mot, pour toutes les cultures non occidentales. Et ça, c'est très rare.
C'est sa marque de fabrique, ça.
De fabrique, je sais pas quand c'était venu dans sa vie, mais si, il s'est intéressé à la Russie très tôt, il avait un peu appris le russe, il s'intéressait à l'Asie. Alors les gens assimilent ça quand on dit ça, Afrique, francophonie, mais c'est pas ça simplement. Et c'est très rare dans tous les dirigeants occidentaux, européens, que j'ai connus pendant des décennies. Je crois que c'était le seul qui avait cette ouverture, cette connaissance, cet intérêt pour le monde russe, le monde asiatique, évidemment, ça, sur la Chine, il était quasiment un expert, hein, sur le Japon aussi, sur l'Afrique, sur le monde arabe, sur l'Amérique latine, sur les peuples premiers, etc. Ça, c'est très original, c'est très marquant, ça explique pas toute sa politique étrangère, mais en tant que personnalité, ça le sort du lot, et comme 90% des commentaires étaient faits par des spécialistes de politique française, c'était franco-français, cet aspect-là était un peu minimisé.
Oui. Est-ce que ça en fait une doctrine diplomatique, cette ouverture, ce regard aux autres ?
Non, c'est un élément, une composante. En termes de doctrine, ben, il s'est inscrit dans la grande politique de la Ve République, le gaullisme, puis Mitterrand, donc ce qu'on a pu appeler le gaullo-mitterrandisme. Ce qui n'est pas vrai dans les autres domaines, mais qui est défendable sur ce terrain. Et après, il y a eu, à partir de Nicolas Sarkozy, la rupture que Nicolas Sarkozy avait revendiquée lui-même par rapport à tout ça. Donc c'est cette... Moi, en tant que ministre, c'est la ligne que j'ai suivie, d'ailleurs, entre Chirac et Jospin, cette forme de gaullo-mitterrandisme modernisé, on va dire, avec une dose d'Europe en plus. Est-ce que ça en fait une doctrine pour après, l'ouverture ?
Est-ce qu'il y a un héritage, hein ? C'est un peu la question qui se pose.
Non,
alors posons-nous la question.
Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'héritage. C'est trop lié à sa personne tout à fait extraordinaire et particulière. Par contre, à un moment où les Occidentaux se résignent à voir enfin qu'ils ont perdu le monopole de la puissance dans le monde, en fait, et de l'influence. Ils sont encore très très puissants, très influents, même quand ils sont en désaccord entre eux. Mais il y a les autres. Ce qu'on a appelé les émergents pendant longtemps, au début c'était avec un peu de condescendance parce que c'était des petits dragons asiatiques qui n'inquiétaient pas le système, après c'est le mastodonte chinois, ça change tout. Donc les Occidentaux sont plus les seuls. C'est peut-être le moment de se dire que dans ce regard de Chirac, qui était très personnel en fait, très très culturel, très civilisationnel, il y a peut-être un élément de compréhension, d'écoute, d'intelligence et qu'il faut introduire et qui n'a rien à voir avec la repentance. Parce qu'un pays comme la France, depuis des années, sur ces questions, est dominé par une repentance larmoyante, l'expiation, etc. C'est nul, ça. Ça conduit dans une impasse absolue. Ça sert à rien. En plus, c'est pas du tout ce que demandent les dirigeants, les animateurs des pays de l'ancien tiers-monde. Donc, il y a quelque chose à retirer, je trouve, dans ce regard de Chirac.
Et Hubert Védrine, aux obsèques, hier était présent, notamment le président russe Vladimir Poutine. Est-ce que c'est le signe, la confirmation d'un dégel des relations entre Paris et Moscou? Ou c'est un passage obligé ?
Non, c'est ni l'un ni l'autre. Poutine, un dirigeant n'est jamais obligé d'aller à des obsèques d'un ancien dirigeant qui n'est pas en fonction. C'est d'une autre nature. Donc si Vladimir Poutine a voulu venir, c'est parce que il avait vu, il n'a pas connu Mitterrand ni les gens d'avant, mais il avait vu en chaque chat quelqu'un qui n'avait pas de prévention viscérale, automatique, contre la Russie. Donc il voulait venir à ce titre, par rapport à ça. Alors ça s'inscrit dans un contexte où on voit bien que le président Macron a repris la main sur ces questions. Il essaie de revenir aux fondamentaux dont je parlais tout à l'heure, et notamment sur le fait d'avoir avec la Russie, pas des rapports naïfs, confiants et aveugles, parce que c'est quand même un pays compliqué, mais quand même des rapports meilleurs que ceux que l'on a depuis des années.
Relations apaisées.
Apaisé, non, on n'en est pas là.
Normal non plus.
Donc disons que c'est pas normal d'avoir des... Aujourd'hui, c'est pas notre intérêt, c'est
d'être dans le conflit.
D'avoir des relations avec la Russie aujourd'hui, pire qu'avec l'URSS, autrefois. Donc Emmanuel Macron essaie de déclencher un processus, en tout cas en Europe, pour corriger ça. Mais c'est pas pour s'aimer, c'est pour... exister, voisiner dans des conditions plus sûres, vous voyez.
Ouais. Vladimir Poutine était là. En revanche, on a noté le service minimum côté américain. Pas de ministre. Un communiqué de Mike Pompeo qui arrive trois jours après le décès de Jacques Chirac. Donald Trump qui n'en fait pas un tweet.
Oui, mais pour eux, c'est un autre monde.
Faut pas s'en émouvoir. Il n'y a pas de...
Non, ça veut rien dire. Enfin, sauf sur eux. Ça veut dire qu'ils sont enfermés dans leur bocal, dans leur dispute. Et c'est toujours comme ça. C'est très, très, très rare. J'ai même pas d'exemple. Je sais même pas qui, pour le général de Gaulle.
Vous ne souvenez pas
peut-être qui... Peut-être que Nixon était venu.
Je crois bien. Voir les images de Nixon aux obsèques.
Là, c'est très particulier parce que Nixon et Kissinger avaient une admiration géante pour le général de Gaulle. D'ailleurs, s'ils avaient été au pouvoir avant de Gaulle, n'auraient pas été obligés de sortir de l'OTAN. Parce qu'ils auraient obtenu, il aurait obtenu deux.
Il aurait obtenu réforme, deux ce qu'il voulait.
Et c'est très très particulier, c'est exceptionnel. Ça. Bon. Les autres présidents américains.
C'était une parenthèse. Donc,
ça ne veut rien
ça
dire.
Ça n'a pas de signification politique ou diplomatique.
Rien de plus que ce que l'on sait déjà sur l'état du monde et de Trump et des autres.
Hubert Védrine, quelques mots de l'actualité internationale. L'actualité du jour, c'est un anniversaire, les 70 ans de la République populaire de Chine. Sur fond de manifestations à Hong Kong où on manifeste depuis le mois de juin. Est-ce que la France a raison de se tenir très à l'écart de ce qui se passe là-bas?
Le monde entier,
oui, l'Occident.
Quelle est l'autre option?
Je ne sais pas. Doit-on soutenir le mouvement de contestation?
Ah ben, on peut exprimer de la sympathie.
Oui.
On peut dire que...
On a exprimé rien de tout ça jusqu'ici.
J'y ai eu deux, trois phrases un peu sympathiques, modérément sympathiques, on va dire. Oui. Mais l'enjeu, il faut sortir de ce qui a été très à la mode en France, c'est-à-dire l'ingérence, qu'on prend fait et cause pour des gens qu'on abandonne en cours de route, parce qu'évidemment, on ne va pas déclencher des guerres géantes pour eux, vous voyez. Et même quand on le fait, ça marche pas bien. Regardez le bilan des interventions occidentales depuis une trentaine d'années. La seule qui est complètement incontestable, c'est la première guerre du Golfe, pour rendre au Koweït sa liberté, son indépendance. Tous les autres ont tourné plus ou moins comme ça. Bon, donc il y a une sorte de prudence qui s'est installée. Je dis pas dans les médias, qui sont souvent interventionnistes, mais en tout cas chez les gens, aux États-Unis, en Angleterre, en France, que je cite, parce que c'est les trois seuls pays qui aient des moyens militaires, en fait, sérieux. Donc ça, c'est l'esprit de précaution, de responsabilité. Il faut pas qu'on soit prêt à se battre jusqu'au dernier Hongkongais. Dire qu'on est, on a de la sympathie, de la compréhension pour leurs aspirations, oui, mais en même temps, c'est qu'il y a l'énorme système chinois à côté, qui veut absolument pas de contagion, qui a le moyen d'asphyxier ça. On se dit que heureusement, pour des raisons quand même de regard du monde, là où joue un rôle, ils veulent pas refaire Tiananmen. Qu'ils avaient fait pour casser un processus.
Donc c'est une bonne méthode, en fait.
C'est la plus honnête, la plus responsable. Alors, évidemment, en privé, le président Macron va aller en Chine, en novembre, je crois, en privé plaider auprès des Chinois, si ça peut être utile. Donc ils auraient intérêt quand même à maintenir une sorte d'autonomie, une sorte de particularité de Hong Kong, ce qui est prévu, en principe, jusqu'à un certain point. Bon, ça peut peut-être se négocier, à condition qu'il y ait du côté des militants démocrates, des interlocuteurs, qui ne veuillent pas plaquer à Hong Kong, maintenant, ce qu'était la démocratie en Grande-Bretagne quand elle fonctionnait, vous voyez. Il faut être très responsable. On peut penser ce qu'on veut, on peut espérer, on peut souhaiter beaucoup de bonnes choses pour eux, naturellement, mais il faut vraiment être responsable. Surtout quand on parle des autres et que c'est pas notre combat en direct et que nous prenons nous aucun risque.